Chaque jour, la fréquence de la paix lie le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
La responsabilité d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un n'est pas chose facile. Les experts, selon les experts, il est important d'annoncer la nouvelle de manière à atténuer les chocs chez son interlocuteur. La fragilité émotionnelle de la personne doit être prise en compte, car le caractère et le tempérament diffèrent d'une personne à une autre. Alors comment procéder concrètement pour annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un? Valentin Tombois, vous êtes psychologue et expert en éducation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quels sont les préalables à observer avant d'annoncer une mauvaise nouvelle à une personne?
Oui, la mauvaise nouvelle, ça dépend d'abord de l'intensité et de la nature de la nouvelle. Et en dehors de ça, vous devez tenir compte du profil psychologique et aussi sanitaire de la personne à qui vous devez annoncer la nouvelle. Mmh. Donc, dès que vous connaissez la personne par rapport à son état sanitaire, par exemple, il y en a qui sont hyperpendus, il y en a d'autres par rapport à leurs états physiologiques, annoncer brutalement une nouvelle, ça peut aussi créer facilement une altération par rapport à leur état de santé. Et j'ai dit encore une autre précaution, c'est par rapport à la nature de la nouvelle. Mmh. Et aussi, c'est que ça peut provoquer comme choc. Et dès que vous déterminez les deux éléments, à ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous pouvez annoncer la nouvelle.
Prenons par exemple quelqu'un qui perd son emploi. Bon, on l'invite le chef du personnel attend au bureau. Comment peut-il lui annoncer la nouvelle?
Ah oui. Généralement, quelqu'un, avant de perdre d'abord l'emploi, il y a des processus. Mmh. Et je suis sûr que s'il y a un psychologue en milieu professionnel, et dans le processus de quoi ça du dossier, je suis sûr que l'autorité est censée savoir que par rapport à l'ampleur de l'acte posé par un agent, et cet acte ne pouvait que finir par rapport à la résiliation du contrat. Mmh. Et petit à petit, il pouvait bien le préparer déjà. Et je suis sûr dès qu'il va l'annoncer, ça ne peut pas créer un grand choc auprès de l'agent.
Voilà, ça ne peut pas créer un grand choc, donc il doit être préparé, vous dites, par un psychologue.
Oui, par exemple, quelqu'un qui a posé quand même des actes en milieu professionnel. Mmh. Je prends le cas qu'il a volé, où il s'agit d'un chauffeur qui a connu un accident. Je ne suis pas sûr que c'est le même jour et tel que l'infraction est connue au niveau de son chef, qu'on est censé résilier le contrat. Non, je ne crois pas. Je suis sûr qu'on est censé inviter d'abord les concernés, les mettre devant un OPJ s'il existe au niveau de l'entreprise, qui va l'auditionner. Et après avoir auditionné, le chef qui a le dossier, au lieu de se limiter par rapport au dossier, il va appeler aussi les concernés pour lui dire que l'acte que tu avais posé, cet accident, tu avais pris d'abord la bière, or prendre de l'alcool, il faut choisir conduire ou prendre l'alcool, mais toi tu avais pris déjà l'alcool. Est-ce que tu es conscient par rapport à ça? Parce qu'il y en a dans le dossier. Et oui, c'est conscient. Et tu sais que par rapport à ça, ça peut t'amener aussi à résilier ton contrat. Et petit à petit, le concerné est censé se préparer. Si ce sera une façon de lui dire qu'il est censé réintégrer, ça va créer un ouf de soulagement.
Oui.
Par contre, quand on lui annonce qu'on a résilié le contrat, à ce moment-là, comme il s'était déjà préparé, je suis sûr que là, ça ne peut pas provoquer un choc. Donc, ça concerne aussi par rapport aux autres éléments, à d'autres natures de quoi ça de problème.
Oui, alors Valentin, prenons le cas par exemple, quelqu'un qui se rend dans un centre de dépistage volontaire du VIH-SIDA, qui passe son test et après le médecin se rend compte que le résultat est positif, la personne est atteinte. Alors maintenant, comment lui annoncer cette nouvelle?
Ah oui, c'est comme ça qu'on a toujours exigé que dans le centre pareil, il y ait des psychologues. Et je suis sûr aussi les médecins généralement, ils arrivent à suivre une formation beaucoup plus approfondie dans le domaine de la psychologie. Donc l'information, on l'annonce pas directement. Je sais que quand il y a un examen sanitaire, même s'il s'agit d'un examen si simple que ce soit, comme le cas de la malaria, quand quelqu'un est en face du diagnostic, ça crée déjà une attitude de peur, de crainte de ce que le diagnostic va annoncer. Et par rapport à ça, celui qui annonce le diagnostic est censé préparer les concernés. Je suis sûr qu'avec cet examen, il commence d'abord à faire voir auprès des concernés quelles sont les maladies que vous connaissez qui existent à travers le monde. Si on arrive à prélever par exemple les sangs, il y a typhoïde, et tout. Est-ce que connaissez-vous aussi les maladies qui occasionnent les décès des gens? Ah oui, même la malaria. Oui, par exemple la typhoïde. Et en dehors de ça, bon, même des maladies que nous pouvons un peu terre à terre, ces maladies, une fois qu'on n'a pas eu de précautions à temps, ça peut amener à la fatalité. Et à cette maladie, dès que vous avez préparé la personne, et dit, il y en a depuis très longtemps, par exemple, qu'on avait attrapé avec la tuberculose, et vous savez qu'avec le temps, la tuberculose qui n'avait pas de médicaments, et les gens croyaient qu'avant la tuberculose, c'est déjà les décès, jusqu'au début. Il y en a qui se sentent stigmatisés quand on vous attrape avec la tuberculose.
Oui.
Mais en réalité, si vous allez vous prendre en charge et que vous vous connaissez en tant que tel, à ce moment-là, vous pouvez bien vous arranger. Donc, ça demande quand même une préparation psychologique.
Mm-hmm.
Et dès que vous préparez la personne et dites, par exemple, il y a tel cas, il a déjà fait plus de 20 ans après avoir eu... on l'avait détecté avec le sida, un tel avait la tuberculose, voilà autant d'années. Vous préparez la personne et petit à petit, lui dire quelles sont les préventions et tout, quelles sont les dispositions à prendre. Et on endosse maintenant la personne. Je suis sûr qu'à ce malade, tel qu'il est préparé suffisamment, ça ne peut pas créer un grand choc. Donc, annoncer une information, c'est ce que j'avais dit. Une nouvelle telle que vous avez qualifié ça, il faut, ça demande d'abord la connaissance de la nature de l'information ou de la nouvelle, connaître la personne et au préalable commencer par la préparation.
Connaître la nature de l'information d'abord, vous avez dit?
Oui. Connaître la nature de la personne, quand je parle de la nature, son état psychologique, son état sanitaire, et en dehors de ça, avant d'annoncer la nouvelle, telle que vous avez déjà pris les deux premières précautions, vous passez au niveau de la préparation. Et la préparation, je suis sûr que tout le monde qui est par rapport à ça, je suis sûr que les psychologues sont beaucoup plus attitrés, ou un médecin. Oui, il y en a aussi qui arrivent à faire une bonne préparation.
Oui, mais Valentin Toumba, pendant la préparation, la personne peut commencer à soupçonner quelque chose et vous poser par exemple des questions, mais où est-ce que vous voulez en venir?
Oui, mais quand j'ai dit la préparation, ce n'est pas n'importe qui. Ça constitue de la matière de personnes attitrées, ceux qui ont été formés par rapport à ça. Je peux vous annoncer, il y a un collègue qui m'avait vu la fois passée, qui avait connu un cas de sa femme qui était un peu malade. On l'amène à l'hôpital, il dit, ah bon, je suis psychologue, c'est ce que vous voulez dire là, je connais déjà. Il commençait à dévancer celui qui consultait sa femme. Et maintenant, le psychologue clinicien était bloqué, et quelques temps après, il s'était ressaisi pour dire, ah mais vous connaissez par rapport à ceci. Mais comme vous connaissez, si c'est comme ça, vous n'êtes pas malade, vous prenez conscience de votre état. Et vous savez que ça dérange aussi votre maison. Donc, ça demande d'autres tests par rapport à ça. Bon, annoncer une mauvaise nouvelle, de pareil, je suis sur le sanitaire, ils engagent aussi des psychologues, et il y en a qui suivent aussi des formations sur la connaissance de la psychologie comportementale. Et qui deviennent des comportementalistes, je suis sûr qu'avec eux, ils peuvent très bien annoncer la nouvelle sans qu'elle puisse créer des dégâts.
des questions, des préoccupations par rapport à ces thèmes, appelez-nous déjà au 081-896-3394. Le standard est déjà ouvert. Appelez-nous. Nous allons tout de suite vous rappeler. Ou soit vous pouvez nous écrire à service@radiocapi.net.
Le débat politique, c'est dans Dialogue en Sens Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Comment annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un? Valentin Toumba, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des spécialistes, des gens qui sont formés pour annoncer de telles nouvelles, mais vraiment, dans la société, il y a un cas de deuil dans une famille, quelqu'un décède à l'hôpital, voilà. Certains appellent tout de suite au téléphone ou rentrent à la maison en pleurant, on annonce la nouvelle et puis c'est tout le monde qui se met à pleurer. Alors, dans ce cas-là, comment faire la préparation?
Oui, ça c'est vrai, ça pose un peu un problème, c'est ce qui est très caractéristique de notre société. Ça c'est vrai, notre société est beaucoup plus émotionnelle et préfère bien transmettre la douleur d'une personne à une autre. Cette transmission de la douleur, ça part d'une personne à une autre par rapport aux états psychologiques, le cas de pleurs, tel que vous avez dit, le cas de gestes, et ainsi de suite. Quelqu'un qui est en train de gémir avec la douleur, il préfère que les gens puissent avoir pitié de lui. On peut transmettre cette douleur-là. Avec des émissions, ce n'est pas pour rien que vous existez avec votre émission. On vous jette beaucoup de fleurs par rapport à ça. Et quand ils suivent les informations et les émissions provocatives maintenant, je suis sûr qu'ils peuvent revoir. Hein.
Alors Valentin, par exemple, pour le cas de décès, il n'est pas bon d'appeler quelqu'un au téléphone pour...
Non, c'est vraiment, il faut éviter. Il faut éviter, parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il est au volant. Il est au volant. Mmh. Il est dans un carrefour. Lui aussi peut connaître un autre accident et puis mourir. Donc vraiment, c'est quelque chose à éviter. Quand vous commencez à appeler la personne, celle-ci a vraiment la distance, et vous voulez bien qu'il puisse avoir l'information, évitez plus les systèmes. Mais vous pouvez l'appeler, savoir où il se trouve, à quel endroit, et comment il est à la maison, comment il se comporte, comment le bouger. Vous commencez un peu par une préparation, parce que même au téléphone, on peut bien faire aussi une bonne préparation. Et après, vous pouvez bien annoncer, et annoncer de manière progressive. D'abord, grave malade, vous pouvez encore appeler, non? L'État, en tout cas, l'État continue à être inquiétant. Et nous constatons que c'est vraiment irrécupérable. Et vous continuez à vraiment, on vient de nous annoncer que c'est inutile d'acheter même le médicament. Et petit à petit, vous annoncez, voilà, il vient de nous quitter. Je suis sûr que par rapport à toutes ces étapes-là, vous pouvez bien préparer la personne.
C'est-à-dire, il faut bien choisir les mots qu'on va utiliser pour la préparation.
Ça permet aussi les...
Oui. Valentin Toumba, vous êtes en ligne. Valentin, vous êtes toujours là?
Oui, je vous écoute.
Oui, je disais tout à l'heure, donc, pour annoncer cette nouvelle, une telle nouvelle, il faut aussi... le choix des mots et de ce qu'on va dire est très important.
Oui, je disais qu'il y a le choix de mots, vous avez bien trouvé. En dehors du choix de mots, il faut savoir alterner les états, c'est-à-dire commencer à annoncer le cas de la maladie, en dehors de la maladie, la gravité de la maladie, après la gravité de la maladie, annoncer que c'est vraiment irrécupérable, et par après annoncer la nouvelle que voilà, la personne vient de nous quitter.
Mais la personne qui doit annoncer la nouvelle elle-même, quelle attitude elle doit avoir, parce qu'elle peut laisser, parce que l'autre personne peut lire ses émotions et comprendre.
L'attitude, je sais que pour les dames, généralement, c'est difficile de se maintenir.
Pourquoi?
Et d'ailleurs, ils préfèrent ne pas annoncer, ils commencent à pleurer.
Oui.
C'est par le pleur que l'autre va comprendre qu'il y a un problème de décès.
Pourquoi?
Mais par contre, si... S'il faut prendre d'abord une attitude de responsable, dire que cela est arrivé, vous dominez, vous gérez d'abord vos états affectifs. C'est en fait ça, l'équation actuelle qui est en fait ce qu'on appelle la gestion des émotions, l'équation émotionnelle.
Oui.
Et c'est appelé d'ailleurs une intelligence émotionnelle actuellement.
Mm.
Donc, savoir dominer d'abord ses propres émotions, et après avoir dominé ça, prendre une attitude d'aider aussi l'autre qui va recevoir cette mauvaise nouvelle.
Alors, vous voulez dire que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes?
Ah oui, elle préfère que les gens puissent avoir pitié d'elle, hein, comprenez. C'est ce qui caractérise la psychologie féminine.
Oui. Mais est-ce qu'il y a un moment particulier ou un endroit particulier pour annoncer une mauvaise nouvelle?
Ah, ça dépend de la nature, de quoi c'est de la nouvelle. C'est ce qu'elle a dit dès le début. S'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour votre enfant, on vient de l'engrosser par exemple, de la rendre mère.
Mmh.
Et l'enfant cherche à annoncer ça auprès de son mari. Je ne crois pas que ça peut être au téléphone, même par rapport aux étapes. Je ne vois pas comment elle va respecter les étapes. Je ne le vois pas en train d'inviter son mari au salon, là où il y a les autres enfants,
mmh.
qui peuvent suivre de la réaction un peu brutale de leur papa. Par exemple, en chambre, et la maman peut choisir pour faire la bouchure et préparer le... Ta papa, je sais pas qu'il va recevoir cette mauvaise nouvelle.
Un auditeur en ligne, nous allons l'accueillir. Il nous appelle de Manono, dans la province du Katanga. ECB, bonjour. ECB, vous êtes en ligne, bonjour. ECB, vous êtes en ligne.
Je suis en ligne.
Oui, déplacez. Oui, veuillez vous déplacer un tout petit peu, il y a des coupures de temps en temps, peut-être qu'en vous déplaçant, ça peut s'améliorer. On vous écoute.
Oui, j'ai une question.
Mais laquelle?
J'aimerais poser la question à l'invité.
Oui.
Prenons l'état de l'examen d'État. Je suis par exemple un candidat aux épreuves des examens d'État.
Mmh.
Quand les résultats sont venus, et les résultats sont disponibles.
Désolé, Ezeb, on n'a pu pas capter très très bien votre question, mais on a retenu lors de l'examen, de l'annonce des résultats de l'examen d'État, c'est le moment où il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Valentin, vous êtes en ligne. Alors, il y a certains élèves qui se rendent même là où on annonce les résultats. Il y a des vendeurs de journaux qu'on appelle les émotions, et vous payez un peu d'argent et puis ils vous disent voilà, vous n'avez pas réussi. Il y a des élèves qui tombent sur place. On va chercher des seaux d'eau pour les réanimer.
C'est ça. Suicide aussi. Je suis sûr qu'au moment de la scolarité, hein, durant l'année scolaire, il y a les enseignants qui préparent aussi déjà les élèves par rapport à l'acceptation de l'échec ou de la réussite. Hein.
Mmh.
Par exemple, l'enseignant peut facilement annoncer auprès des élèves, même les chefs d'établissement, que ce soit le dernier jour ou avant même les examens. Il y a des préparatifs. C'est pour dire, voilà, devant une épreuve comme celle-ci, vous pouvez soit réussir ou soit échouer. Et l'échec n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une facilité. Il y en a qui ont essayé de faire ça plusieurs fois et par après, qui ont réussi avec de très meilleurs résultats et qui sont utiles dans la vie. Donc, je suis sûr que la préparation, ce n'est pas seulement le jour qu'on annonce, même au moment de faire les examens, même avant de faire les examens, il y a des préparations. Et aussi, il revient aux parents de savoir que la tâche n'est pas facile au moment d'annonce des examens, aux résultats des examens. Et je suis sûr que les parents ont aussi ce rôle-là. L'enfant, avant d'aller voir le résultat, qu'il soit préparé, et après cette préparation, et dès qu'il reçoit cette mauvaise nouvelle, l'enfant peut bien se maîtriser.
On a eu des cas, des informations sur des cas des enfants qui se sont donné la mort, tout simplement, pour avoir échoué aux examens, à l'examen d'État.
Oui, c'est en fait ça. Mais malheureusement, les émetteurs, donc, les inspecteurs qui envoient directement, bon, je ne vois pas les inspecteurs, nous n'avons que, ce sont les canaux qui nous sont autorisés aujourd'hui avec l'Internet, et en fonction de ça, chaque enfant est en contact, mais malheureusement, on ne mesure pas les conséquences par rapport à ces enfants. Et c'est comme ça que j'ai dit que les enseignants, durant l'année scolaire, ils ont cette tâche-là aussi de préparer aux enfants d'accepter les échecs éventuels. Et en dehors de, des enseignants, c'est aussi le rôle par rapport aux parents. Les parents seront beaucoup plus en contact avec les enfants. Mmh. Et l'enfant, avant de quitter la maison pour aller voir le résultat, je suis sûr, il vient d'une maison. Et à partir de la maison, si l'enfant est informé comment il est censé se prendre devant l'échec, je suis sûr que ça va arriver au-delà comme étant choc.
Mmh. Un auditeur en ligne, Modeste, il ne va pas des calomnies. Bonjour.
Ah, bonjour, Jody. Bonjour, cher invité.
Modeste, on vous écoute. Hein.
Aujourd'hui, moi, j'ai une préoccupation.
Oui.
Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui travaille, par exemple, à l'académie, annonce que chez lui, c'est à Kinshasa.
Oui.
Il ne faut pas que ces personnes quittent les services à l'académie parce que s'ils quittaient les services, les services risquent d'en pâtir.
Oui.
Alors, et la personne est hyper attendue.
Oui.
On annonce à Kinshasa, sa femme est morte.
Mmh.
Alors, quelle sera l'attitude de l'information qu'on va donner à cette personne-là? Parce qu'on sait très bien qu'elle est hyper tendue, et si on l'annonçait, ça risque de créer quelque chose. Elle est loin, hein, comprenez, Kalemi Kinshasa, il faut quelques centaines de kilomètres.
Mmh.
Quelle sera l'attitude de l'information qu'on va annoncer à cette personne? Voilà ma préoccupation.
Merci Modeste. Shadrach, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Ah, bonjour monsieur le journaliste, salut également à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Lemissa et de la radio Capri 1-6. Voilà, j'ai une préoccupation, j'aimerais demander à notre invité, surtout par rapport au cas d'annoncer la nouvelle de la mort.
Mmh.
Par exemple, un membre de la famille était à l'hôpital, subitement il est décédé.
Mmh.
Alors, les autres membres de la famille restent au village, alors on dépose un communiqué à la radio et la radio diffuse ce communiqué et les membres ici sont au niveau de la village et en temps de cette nouvelle. Alors cette façon d'annoncer la nouvelle est-elle bonne ou comment?
Merci Shadrach. Valentin Toumboua.
Oui, j'ai compris, c'est presque de la même nature les deux questions.
Mmh.
Mais ce que nous avons dit par rapport à celui qui vient de perdre sa femme, Kinshasa, et lui et sa tarie.
À Kalini et puis le cousin.
Nous avons dit que c'est un bon de la période brutalement est annoncé. Et si nous avons suivi au début, nous avons dit que premièrement, il faut se renseigner que l'autre se trouve dans quel état, état sanitaire, état psychologique, il se trouve à quel endroit, il a quelle occupation. Et dès que vous connaissez, vous terminez en revue cette première dimension de choses, vous passez à la deuxième. Et la deuxième dimension, c'est par rapport à la mort, à la discrimination, pas la discrimination, à un peu annoncer de manière progressive la nouvelle.
Mmh.
Par rapport à la maladie, par rapport à la gravité, par rapport à l'information donnée par le médecin. Dès que vous allez diminuer l'intensité de quoi ça, du choc progressivement, et à la fin vous annoncez, je suis sûr que ça, dès le début, la personne s'était préparée pour accepter le reste.
Mais si la personne, il a modeste à signaler que la personne est hyper tendue.
Ouais. Si vous connaissez une autre personne qui est dans son entourage, c'est mieux d'annoncer de manière progressivement aussi celui-là, qui est censé préparer progressivement aussi les concernés. Bon, ceux qui passent directement à la radio pour annoncer la nouvelle.
Les communautés nécrologiques, à la radio.
Oui, la radio.
Mmh.
Bon, c'est ce que nous avons dit, la radio n'arrive pas à mesurer les différents degrés de dégâts que le réceptor peut vous voir. C'est comme maintenant, M. Kachama, vous êtes là à la radio,
mmh.
Vous ne savez pas, il y a des gens peut-être qui ne vous aiment pas. Le fait d'écouter votre voix, il y en a qui croient que non, et comme il vit, moi je suis censé me pendre. La radio s'en fout.
Oui.
Elle continue à émettre.
Elle continue à émettre, et bien sûr.
C'est ça, mais si vous arrive, vous, d'avoir l'information,
oui.
Et que vous êtes le plus proche des concernés, c'est à ce moment-là que vous allez vous préparer pour annoncer en respectant les étapes toutes celles que nous avons dites.
Bien. Moïse nous appelle de Boutembo. Comment annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un? Moïse, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, aussi à notre invité. J'ai une question à lui poser.
Allez-y.
Bajir là, Benajia a su vous annoncer, vous réduisez le contrat avec lui. Maintenant, le reste, ce sont des problèmes. On ne se parle plus. Il y a des colères, ça et là. On se voit et on est sur la route. Maintenant, la première question est de savoir et comment faire pour éviter ce problème après la résiliation du contrat.
Ouais, nous parlons principalement de l'annonce, comment annoncer une mauvaise nouvelle à une personne. Alors là, vous nous parlez d'une personne dont le contrat a été résilié, et puis après, vous ne vous entendez pas, tout ça, vous ne saluez pas en cours de route, c'est cela, Moïse?
Oui, c'est là la première question. Maintenant, la deuxième.
Non? Oui, on vous écoute.
La deuxième question, il s'agit d'une personne à qui vous voulez annoncer la nouvelle. Maintenant, elle est hospitalisée par exemple.
Mmh.
Par exemple, une femme a dit son mari vient de rendre l'âme, vient de décéder. Maintenant, on vous envoie d'aller lui annoncer. Je vais poser maintenant la question de savoir si à une seule personne, on peut encore annoncer la nouvelle.
Une personne qui est malade, hospitalisée, doit-on l'annoncer? Et encore une mauvaise nouvelle. Valentin Toumba.
Non, oui, il faut éviter dans un premier temps.
Oui.
Et il faut éviter. Il y a d'ailleurs, ça arrive souvent. Il faut éviter de lui annoncer la mauvaise nouvelle, sinon vous allez le plonger dans l'évasion de la maladie.
Mmh.
Et aussi, une façon de dire aussi à la personne par rapport à cette maladie, ça peut t'emporter, et toi aussi tu vas mourir comme l'autre. Et quand il va s'imaginer comment la terre va tomber sur lui, vous pouvez le plonger plus dans l'évasion, c'est ce que j'ai dit. Dans tout ça aussi, ça dépend de l'état de la maladie aussi, de la personne. Il y en a qui sont hospitalisés, qui est en repos. Vous pouvez voir par rapport à son état, c'est ce que nous avons dit dès le début, voir son état sanitaire, et dans cet état sanitaire, si l'état sanitaire n'est pas inquiétant par rapport à la nouvelle, on annonce. Peut-être que ça peut être... par exemple, le cas de pleurs, on dit aussi que le pleur régularise des fonctions physiologiques.
Ça soulage, non?
Ça régularise des fonctions physiologiques.
Oui.
Peut-être que la personne qui avait connu un cas de la dépression, le fait d'annoncer après des pleurs, ça, il peut bien récupérer aussi. Hein, il peut bien récupérer. Donc, ça dépend de la maladie. Dès que vous voyez que ce n'est pas désastreux, vous pouvez annoncer, c'est en fait ça.
Bien, Ernest Lukumwena Kalala de Kalemi nous a écrit depuis la page Facebook du magazine Okapi Service. Il dit ceci, faut-il annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un lorsqu'il est affamé à midi ou il faut attendre seulement le soir, et quel est le comportement à afficher lorsqu'on transmet la nouvelle? Faut-il sourire ou pas?
Une mauvaise nouvelle, quand vous êtes en train de sourire, c'est comme si vous êtes en train de vous moquer de la personne. Sourire, ça sera un peu anormal, non? Mais vous prenez une attitude normale. S'il s'agit de votre ami, vous prenez une attitude de responsable pour lui annoncer.
Mmh.
Bon, annoncer, est-ce qu'il est affamé? Moi je ne sais pas si on annonce à quelqu'un une mauvaise nouvelle. C'est pas de la déception. Que tu avais laissé ta fiancée ici et il y a quelqu'un d'autre qui l'a apporté.
Oui.
Est-ce que la personne peut refuser de manger ça? Je ne sais pas.
Ah, mais il y a certaines personnes qui ne vont pas manger, certainement parce que l'émotion est. La personne est troublée, quoi. Ça peut arriver.
Ça, c'est vrai, bon.
Oui.
Et puis par rapport à ta question, c'est comme si la fin c'est seulement à midi. Hein.
Oui.
Bon, si vous voyez, c'est mieux que d'abord qu'il mange comme on fait généralement au village chez nous.
Mmh.
Avant d'annoncer à quelqu'un une mauvaise nouvelle, on attend d'abord qu'il mange, il termine, et par après on commence à le préparer petit à petit jusqu'à la fin. On lui annonce, il commence même à regretter. C'est ma mère qui veut préparer pour moi. Au lieu de me dire avant pour que je ne mange pas, vous m'avez laissé manger, vous êtes des méchants. En fait, à la fin, il va se réaliser que la mort de cette personne qui était très chère ne pouvait pas l'emporter lui aussi.
Mmh.
Parce qu'on avait encore besoin de lui.
Alors, Mathieu Kemba, il nous a écrit depuis Goma, il dit, pour une personne qui est souvent ivre, Alors, est-ce qu'il faut l'annoncer la nouvelle quand il est sous les effets de l'alcool ou il faut attendre?
Bon, il y en a qui profitent au moment et qui a de l'alcool. Hein. S'il y a un problème comme ça, on se termine. Hein. C'est là où on trouve d'ailleurs déchargé un peu de l'aventure. Mais comment le problème est là?
Oui.
Et que l'individu devient juste. Il devient sérieux.
Oui. Immédiatement.
Oui, immédiatement.
Oui.
Ça peut être thérapeutique par rapport à cette personne-là.
Oui, donc on retient que la préparation est très très importante lorsqu'on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Et après l'annonce, si la personne se met à pleurer par exemple, alors quel peut être notre apport? Il faut la consoler sur place.
Dans un premier temps, il faut le laisser pleurer. S'il est en train de pleurer. Parce que. Et surtout, quand vous êtes une autorité, je prends le cas d'un homme, il y a des hommes très tyranniques, la femme veut pleurer parce qu'on a annoncé une nouvelle comme ça, il dit, dès que tu pleures, je tape sur toi. Mmh. Et par contre, il commence à machiner ça, et on a trouvé le cas de l'asthme, ça on a déjà parlé avec vous, que le fait d'interdire par exemple à l'enfant à ne pas pleurer, d'accumuler toujours des frustrations, ça peut créer l'asthme avec le temps, on avait trouvé que c'est parmi les facteurs éthiologiques, et pathogènes d'ailleurs. Donc pour le cas pareil, il faut laisser d'abord la personne se réfléchir, pleurer, et après le pleur, je crois, contrôler le mouvement de l'individu, et petit à petit, commencer à le récupérer, pour qu'il puisse doser un peu avec des pleurs.
Bien, Valentin Toumboua, merci. Nous rappelons que vous êtes psychologue et expert en éducation. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci beaucoup.